RCF.
Le 18-19 en Champagne, ce vendredi soir, RCF, Reims-Ardennes, RCF, cœur de Champagne, on est très heureux de vous accompagner pendant 50 minutes avant un bon week-end, un long week-end, le week-end de la Pentecôte évidemment. On se retrouvera nous mardi de fête puisque lundi ce seront les programmes nationaux de RCF qui vous accompagneront. Au programme ce soir, Israël-Palestine, l'impasse des combats à Gaza, c'est l'objet de la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen. Franck Bailly est le maire qui nous parle, il est dit de Cerzy-et-Prince. Il y aura évidemment le journal régional avec pas mal de beaux rendez-vous à vous annoncer pour ce week-end, mais aussi dans les jours et semaines à venir. On parlera de l'Ascension et de la Pentecôte avec le père Pascal Tindano dans le diocèse de Chalon. Nous serons avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, qui posera son regard sur l'actualité de l'Église dans notre diocèse, mais aussi à travers la France et l'international. Et puis enfin, nous rencontrerons Seb Le Motard qui allait à la découverte de la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François. Voilà pour le sommaire de cette émission. Évidemment, je ne suis pas seul. On retrouvera tout à l'heure Jean-Pierre Benoît. Il y a aussi nos stagiaires à la rédaction qui sont d'ores et déjà installés dans les studios. À mes côtés, Médina Erich. Bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Inès Elgaloussi, bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
Et Ilona Martin, notre stagiaire plutôt sur le pôle communication. Bonsoir Ilona.
Bonsoir Alexis.
Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Attachez vos ceintures, c'est parti pour prendre la route et on commence par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen sur notre itinéraire. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le conflit Israël-Palestine. Et on va commencer par vous demander une photographie de la situation, savoir un petit peu où l'on en est. Jacques Cohen, si vous le voulez bien.
Eh bien, on va commencer à l'envers par le front nord, où le Hezbollah et les Israéliens pratiquent une politique d'escalade mesurée, mais comme toutes les escalades mesurées, ça peut vite devenir démesuré. Le dernier incident est que le Hezbollah a réussi à taper une cible qui est la base de dirigeable du ballon qui surveille le Liban, et que donc les Israéliens ont tapé à ce moment-là beaucoup plus au nord que d'habitude en s'approchant de Beyrouth. Pour l'instant, si j'ose dire, le Hezbollah obtempère aux demandes iraniennes de maintenir la pression, et en particulier il y a toujours plus de 100 000 Israéliens qui ont dû évacuer la zone qui est bombardée régulièrement, mais sans que l'on passe à un conflit ouvert et radical qui comporterait une guerre très importante, plus importante qu'à Gaza, car le Hezbollah est bien plus fort que le Hamas, il a de bien meilleures fortifications et une structure militaire beaucoup mieux entraînée. Donc là, on a une situation qui est finalement relativement contrôlée, mais qui peut déraper à tout moment. Parce qu'il faut bien rappeler qu'en fait, la politique israélienne avec le Hezbollah n'a pas si mal marché. Il y a du gaz au large du Liban, un accord avec le gouvernement libanais, c'est-à-dire en fait c'est le Hezbollah qui contrôle avec Israël, a permis que l'on ait côté cour un conflit, et côté jardin de se préparer à partager le fric. Puisque c'est ce qui finalement est le principal facteur pacifique. Mais tout ça peut être compromis assez rapidement dans ces mesures d'escalade temporaire et millimétrées où le Hezbollah essaye de conforter son avantage d'avoir fait évacuer la zone nord d'Israël de civils. Tandis que l'armée israélienne aurait préféré mener une offensive dès le début de la guerre pour, comme on dit traditionnellement, en finir, ou du moins rééquilibrer cette situation au détriment du Hezbollah. Donc là, pour l'instant, j'allais dire, rien ne change, même si les choses se tendent dangereusement. En revanche, à Gaza, la situation correspond, hélas, à ma prédiction de novembre, où j'avais titré une chronique « La victoire du Hamas ». Dans la contre-insurrection, il y a une règle absolue, c'est qu'il faut vider l'eau, il faut vider les civils. À moins qu'on envisage de les liquider tous, ce qui n'est pas l'intention israélienne, sinon ça serait fait depuis longtemps. Et quand on ne vide pas l'eau, eh bien, il est à peu près impossible d'éviter que la force insurrectionnelle que l'on veut détruire ne continue à quadriller, irriguer et se fondre dans la population civile. Pour vider l'eau, il y avait une première solution qui avait été envisagée par les Israéliens, c'était que les Égyptiens prennent les civils. Qu'à partir du moment où les Américains n'ont pas obtenu ça des Égyptiens, les Israéliens avaient une autre possibilité, c'est de prendre eux-mêmes les civils dans le Negev. Mais ils n'ont pas voulu, à la fois pour les équilibres politiques du gouvernement israélien, et parce que c'est mettre le doigt dans l'engrenage vers une solution à un seul État, qui serait à long terme la seule raisonnable, mais malheureusement, dans une situation de conflit aigu, ce n'est pas celle qui s'impose immédiatement. Mais à partir du moment où ce n'était pas fait de prendre les civils, femmes, enfants, vieillards, etc., en disant éventuellement aux Égyptiens, vous prenez les hommes qui rendent les armes, parce que sinon on va les tuer tous. Et là, les Égyptiens auraient du mal à dire non. À partir du moment où ce n'est pas fait, on a une situation relativement classique, surtout avec les tunnels, qui conduit à cette espèce de jeu d'arcade britannique, et vous savez, la taupe qui ressort de son trou, on tape sur le trou, elle ressort à un autre trou, etc. C'est ce qu'on voit actuellement avec des opérations de faible échelle, mais significative, point de vue politique, menée par le Hamas dans des zones qui avaient déjà été nettoyées. On en est à la troisième fois d'un travail de Sisyphe, dit l'état-major israélien, du côté de Jalabia. Avec un autre problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de solution politique à la fin de la guerre. La question n'est pas de terminer de nettoyer, on y reviendra, la zone de Rafia. La situation, c'est quel gouvernement, quelle mise en place d'administration après. Et donc les uns disent une administration militaire israélienne temporaire, l'armée n'en veut pas. D'autres disent quelque chose avec d'introuvables Palestiniens et des pays arabes, et avec une dose de force de l'ONU en plus. Tout ça n'est pas d'une grande crédibilité, donc il y a une impasse. Et là, ça conduit à revoir la question du Hamas. Car la tactique de Netanyahou, depuis 10 ans, 15 ans, qui a été de donner le Gaza au Hamas, qui avait presque fonctionné, presque je dis. Car sous la pluie d'argent, non seulement du Golfe, mais des Occidentaux, Gaza se développait vaille que vaille, une ouverture des frontières commençait à se dessiner par les permis de travail en Israël, et ça a beaucoup inquiété le Hamas qu'on pourrait appeler le Hamas de l'intérieur, c'est-à-dire la bande mafieuse qui contrôle la cité, qui taxe tout le monde, parce que pour eux, il faut un état de pénurie pour maintenir un système clientéliste par la terreur. Si chacun peut gagner sa vie, j'allais dire honnêtement, eh bien tous les Gazaouis vont se débarrasser d'eux, et c'est ce que donnaient les sondages. Donc je crois que c'est une des raisons profondes du déclenchement, ou plutôt de l'échelle et du type d'opération menée le 7 octobre. Je pense que Hamas de l'extérieur avait en vue une opération politique sur les bases militaires, éventuellement avec 2-3 agitations ou 2-3 tirs sur des kibbutz, mais ils n'avaient absolument pas prévu de massacrer plusieurs centaines de civils, ce qui est la logique infernale de Simoire, du Hamas de l'intérieur, montrer que nous massacrons les Israéliens, y compris les plus progressistes qui veulent s'entendre avec nous, qui s'occupent des enfants de Gaza, etc., depuis des années, ce qui est le cas des kibbutz qui étaient autour de Gaza, dans une politique d'affrontement, disant on tue les juifs ou on les fout à la mer, de la rivière au fleuve. Le raisonnement des extrémistes israéliens est à peu près symétrique, mais à grosse différence, c'est que les extrémistes ne sont minoritaires, ne contrôlent pas le gouvernement, font quelques opérations en Cisjordanie, et ce n'est pas la politique de Netanyahou, contrairement à ce que certains racontent. Netanyahou est un politicien qui a surtout besoin de survivre, et qui a des affaires financières au cul, si je puis dire, si jamais c'est la paix, et il joue à une politique d'équilibre avec l'extrême droite et avec d'autres forces, mais fondamentalement il n'est pas fou lui, alors que l'extrême droite est du même niveau de folie que le Hamas. Donc il est possible aussi qu'avec le temps se dessine une coupure qu'on avait vue pour le FNL algérien entre le Hamas de l'intérieur et le Hamas de l'extérieur. Netanyahou, pour sauver la face, a besoin d'une victoire militaire, mais cette victoire militaire, c'est la tête de Yahya Sinwar. S'il peut avoir ça, il pourra toujours dire qu'il a gagné, même s'il sait qu'il rend en fait le pays au Hamas, c'est-à-dire qu'il ramène avant le 7 octobre. Et il y a probablement des gens de le Hamas de l'extérieur, celui qui est à Doha et en Turquie, qui pensent que se débarrasser de l'excité de l'intérieur comme Sinwar, ça ne serait pas une mauvaise affaire pour eux. Simplement, ils ne sont pas fous, ils savent que c'est un gros moyen de pression pour eux, et que donc, s'ils doivent donner la tête de Sinwar, ils la donneront très cher. Et avec une difficulté, c'est qu'ils ne contrôlent pas l'intérieur. Sinwar et ses troupes contrôlent l'intérieur, avec une politique délibérée d'obtenir le maximum de pertes civiles, de façon à espérer que l'opinion publique et les pays occidentaux finissent par geler un statu quo en interdisant la poursuite des opérations militaires aux Israéliens. Là-dessus, ce n'est pas non plus garanti, parce que les Israéliens aussi ne peuvent pas laisser cette situation, que finalement ceux qui ont fait le programme du 7 octobre continuent à parader en armes à Gaza si on arrêtait les combats. Alors il y a les otages, mais malheureusement, peu à peu, leur nombre diminue, probablement comme chantage et en considérant de la part du Hamas qu'il n'en a pas besoin de beaucoup pour que ça reste efficace politiquement et que les aspects pratiques de garder beaucoup d'otages sont nettoyés, si j'ose dire, quand on n'en garde que quelques-uns. Néanmoins, s'il n'y a plus d'otages, à ce moment-là, les Israéliens n'ont pas beaucoup de raisons de ne pas mener une destruction systématique de tout ce qui est sous terre, ce qui pour l'instant n'est pas fait. Donc on a une continuation des combats qui semble hélas durable tant qu'il n'y a pas de solution politique et une population civile qui est obligée de faire ses bagages tous les 15 jours pour gagner une autre zone que celle dans laquelle il y a des combats. Donc je suis assez pessimiste sur la poursuite de la chose avec cette énorme bascule que les pays occidentaux qui ont maintenant des populations arabes significatives voient leur opinion publique suivre ces populations dans une exécration des Israéliens qui n'est en fait qu'un antisémitisme à peine déguisé, comme on le voit hélas chez nous également. La question de l'Iran se greffe également là-dessus, mais nous ne pourrons pas la traiter aujourd'hui, car je suis sûr que vous allez me dire que le temps passe.
Effectivement, j'allais dire, professeur, on a déjà traité pas mal de choses et on vous remercie pour ce développement très complet. Merci Jacques Cohen et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On continue notre chemin sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Nous sommes avec Franck Bailly, le maire de Cerzy-Éprun, avec Jean-Pierre.
Franck Bailly, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Alors, on dit Cerzy ou on dit Cerzy-Éprun?
Ah, j'y suis très attaché. On dit Cerzy-Éprun parce que Cerzy est un joli village de la vallée de Dardre, mais Prun est un magnifique hameau avec un superbe château.
On va découvrir avec vous votre commune de Cerzy. Combien d'habitants à Cerzy?
Donc à Cerzy, à peu près 200 habitants. À Cerzy-Éprun.
À Cerzy-Éprun. Alors ces habitants, on situe bien la commune. Pour nos amis des Ardennes, on sait que vous êtes en zone viticole. On imagine qu'il y a pas mal de viticulteurs dans votre commune.
Oui, il y a 7 ou 8 viticulteurs, ce qui est beaucoup pour un village de 200 habitants. Mais il y a aussi des terres agricoles et il y a aussi des bois. C'est tout l'intérêt de la vallée de l'Arve qui a un paysage très varié, très joli.
Alors c'est vrai que les habitants sont plus des viticulteurs, mais il y a quand même une petite variété. Tout le monde n'est pas viticulteur dans la commune de Cerzy-Éprun.
Non. Il y a le bassin de vie à Reims et il y a quasiment moitié des actifs qui vont à Reims tous les jours pour aller travailler.
Combien de kilomètres à peu près, Franck Bailly? Une vingtaine, enfin.
Une bonne vingtaine de kilomètres.
Une bonne vingtaine de kilomètres. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler. Et vous-même, vous êtes maire depuis combien de temps, vous, Franck Bailly, à Cerzy-Éprun?
Donc moi, je suis maire depuis 9 ans.
Alors avant, on imagine, c'est souvent le cas, vous avez été au conseil municipal, peut-être adjoint. Vous étiez même peut-être habitant de la commune depuis toujours. Vous êtes de là-bas, comme on dit.
Oui, je ne suis pas né à Cerzy-Éprun, mais j'y ai toujours vécu, bien sûr. Et puis, j'ai été adjoint pendant 6 ans. Et après, j'ai fait une pause pour raison personnelle pendant 6 ans. Et après, donc, maire pour 2 mandats.
Alors, c'est vrai que le maire, on dit souvent, c'est un personnage qui compte. Parce que, bon, c'est le premier élu qu'on voit, qu'on rencontre. On imagine que vous connaissez quasiment tout le monde dans le village.
Ah, je connais tout le monde, oui, bien sûr. Oui.
Alors, justement, quand on connaît tout le monde, peut-être que on a tendance à vous solliciter, à vous demander, alors qu'il y a des gens qui ont plus ou moins bon caractère, il y a des gens gentils, c'est comme partout. Mais en fait, vous êtes souvent quand même sur la brèche, comme on dit. Vous avez plus de travail qu'on ne pense. On n'imagine pas le travail d'un maire aujourd'hui.
Ouf, faut relativiser, c'est pas non plus insurmontable. C'est du travail, c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais c'est pas insurmontable, encore une fois. Ça va.
Alors, évidemment, maintenant, depuis quelques années, il y avait des communautés de communes, mais maintenant, il y a quand même le Grand Reims. C'est un peu familier, je le dis à chaque fois au maire. Est-ce qu'il est quand même, moi je crois que oui, quand même, le patron dans sa commune? C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un Grand Reims, on se dit, il n'est plus tout à fait le chef du village, mais il l'est quand même.
Alors, avec le Grand Reims, il y a quand même une chose qui est très bien, c'est que le conseil municipal garde le droit de veto. Alors le droit de veto, ça veut dire que si le Grand Reims a un projet et que le conseil municipal ne le valide pas, c'est le conseil municipal qui a le dernier mot. Donc vous voyez, donc déjà, c'est déjà pas mal. Après, c'est évident que le travail du maire a changé. On n'est plus un intermédiaire avec le Grand Reims qui va réaliser, on va contrôler les travaux, on fait les demandes, mais on n'est plus, c'est effectivement on n'est plus décideur complètement sur les travaux qui sont faits dans le village.
Alors évidemment, on vous demande parfois des services un peu personnels, vous demande voilà, de régler telle ou telle situation. Il y a un maire l'autre jour qui nous dit, parfois, quand une personne d'un certain âge a des problèmes informatiques, elle va voir le maire, elle dit « j'arrive pas à faire ça ».
Mais c'est évident, d'autant plus que maintenant, avec l'administration, on n'a plus d'interlocuteur physique, et donc le secrétariat de mairie reste le dernier endroit où on peut venir demander un renseignement, et surtout dans le milieu rural, les personnes âgées n'ont pas forcément Internet. Là, le rôle du secrétaire de mairie, autant que du maire, est très important dans le commun.
C'est là qu'on se rend compte de l'importance de la proximité d'un village, d'un maire, parce que c'est des gens qui verraient personne de l'administration. Si Reims est à 25 km, ils vont pas y aller comme ça facilement, si c'est une personne âgée.
Même que le pôle de proximité, les gens n'y vont pas. Les gens n'y vont pas, ça passe, tout passe par la mairie, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on ait gardé ce lien, si vous voulez.
Avec les habitants.
Parce que nous, bah, par exemple, en période de canicule, en période de tout ça, on connaît les habitants, on peut se permettre d'aller les voir, de les conseiller, que forcément, une grande ville ne s'est pas fait.
Alors Franck Bailly, alors il n'y a peut-être pas de projet urgent en cours, mais est-ce qu'il y a quand même un ou deux projets qui se sont terminés, d'autres que vous avez quand même dans vos valises? Il se passe toujours quelque chose quand même dans une commune, si c'est pas la voirie, c'est des fleurs, c'est une école, il y a toujours quelque chose.
Mais justement, si vous voulez, comme la communauté urbaine a pris des compétences, ça a permis au conseil de se dégager du temps pour d'autres compétences qui sont tout aussi intéressantes. Je vais vous parler par exemple de la biodiversité. On a énormément travaillé sur la biodiversité du village en plantant des haies, en mettant des arbres, en créant un verger, en créant des mares. Donc on a énormément travaillé dessus. Et ça, on n'aurait peut-être pas eu le temps si on avait dû gérer la totalité des écoles comme c'était avant.
Alors une question peut-être.
Des écoles, par exemple.
Une question, je vais peut-être tomber à côté de la plaque. Quand on n'est pas loin de Reims, surtout avec le Covid, on a pensé à cette période. Il y a des gens qui trouvent que les logements sont chers ou les maisons sont chères à Reims et dans l'agglomération rémoise, mais que peut-être dans un village, est-ce qu'il y a des jeunes ou des personnes qui viennent s'implanter quand même? Il n'y a peut-être pas beaucoup de terre avec les vignes, hein. c'est peut-être difficile.
Il y a très peu de terrain constructible.
Bah oui, c'est sûr.
Il n'y a plus de terrain constructible. C'est presque une volonté du conseil parce que, si vous voulez, c'est bien de garder la typicité du village avec ses belles terres. Par contre, le petit souci qu'on a, si vous voulez, c'est qu'avec le vignoble, il y a des salariés du vignoble qui sont obligés d'aller habiter à Fismes ou à Reims parce que les loyers sont trop chers, parce que nous, c'est que des maisons individuelles. Et donc, c'est un petit peu dommage, si vous voulez, qu'il y ait ce décalage et qu'en milieu rural, il n'y ait pas des petites structures, justement, pour les jeunes qui démarrent, qui ont des salaires un peu moins élevés, qui puissent avoir des petits logements dans les campagnes.
C'est
le petit regret que j'aurais, vous voyez,
pour
le salarié du vignoble qui démarre.
Oui. Ce qui est intéressant, Franck Bailly, c'est qu'au fond, on a l'impression, et c'est pas qu'une impression, qu'à Cerzy-Éperin, il y fait bon vivre. On imagine, alors on est à la radio, on n'a pas d'image, mais on est dans la vigne, on n'est pas loin de la vallée de l'Arve, on a les vignes, on a vraiment une qualité de vie. Ça aussi, ça n'a pas de prix.
La qualité de vie, c'est indéniable, et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, au niveau du conseil municipal.
Alors la dernière question, puisqu'on arrive presque au terme de notre émission, Franck Bailly, c'est évidemment la même question que je pose à chacun pour toute l'année. Après, on changera si on continue cette émission. Êtes-vous un maire heureux? Parce que on entend tout le temps les gens se plaindre. Pas chez les maires, hein, mais souvent, on se dit, oh là 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 là, dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de plaintes que d'encouragement. Vous êtes un maire heureux, finalement. Vous êtes passionné de ce que vous faites.
Je suis passionné. Et puis en plus, si vous voulez, le fait d'être maire m'a permis de faire des rencontres que je faisais pas dans le milieu professionnel. Donc, si vous voulez,
ça ouvre vraiment des horizons. Ça ouvre des.
Ça ouvre des horizons. Ça, c'est indéniable. Après, faut pas faire le mandat de trop. Si vous voulez, deux mandats, je considère que c'est bien. Et puis après, je serais encore plus heureux si on avait la possibilité d'aller plus loin dans le projet, si vous voulez. Je vais vous citer un exemple. On a l'église qui est vraiment mal en point. On a réussi à la sécuriser, donc on a fait des échafaudages partout, mais ça va être un travail de 20 ans peut-être pour refaire une belle église. Ça va jamais assez vite.
On aura l'occasion d'en reparler. Ce que je vous propose, Franck Bailly, c'est de revenir, c'est-à-dire qu'on vous rejoindra, puis vous, si vous organisez quelque chose, n'hésitez pas à nous joindre. C'est un peu le but de cette émission de proximité. Et merci d'avoir été avec nous. Je sais en plus, puisque il est 18h20, c'est l'heure où on peut se rapprocher de l'apéritif, et qu'il y a apéritif dit champagne dans votre région. Et comme je sais que vous êtes viticulteur, eh bien, on boit le champagne avec vous, en tout cas. Merci, merci Franck Bailly d'avoir été avec nous. Et à très bientôt sur RCF.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
18h30, le journal régional. Les titres de ce vendredi 17 mai, Vitry-le-François sera la première ville de la Marne traversée par la flamme olympique le dimanche 30 juin. Un bel événement. Célébrations pluriculturelles, Reims et Florence sont mises à l'honneur par Reims Rayonnement International. Présentation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et on va commencer par parler de l'association Reims Rayonnement International qui vous propose une diversité d'activités que vous présente Médina Eris.
En effet, dans le cadre de l'intégration de Reims-Florence par l'association Reims Rayonnement International, en charge des jumelages de la ville avec par ailleurs Nagoya et Séville, des activités autour du thème de Florence sont proposées lors des prochains mois à venir afin de célébrer cet événement pluriculturel. En premier lieu, nous célébrerons la 25e édition du Festival du cinéma italien. Pour l'occasion, des projections de films italiens seront disponibles à l'Opérins, notamment le film d'ouverture Seconde Jeunesse, qui sera diffusé à 20h le 2 juin, le jour de la fête de la République italienne. D'autres films seront également présentés tous les jours entre le 5 et le 11 juin. Vous aurez l'occasion de retrouver les films suivants. Les frics sont lâchés, Akira, Le défi du champion, Nos plus belles années, Hier, aujourd'hui et demain, Anima Bella ainsi que Pour toujours, des productions aux morales profondes sous le signe du face-à-face, du combat et du défi. Les plus jeunes sont eux aussi conviés au rendez-vous avec un concours de dessin pour les 5 à 11 ans, aura lieu sur le thème du cyclisme à travers les âges et le Tour de France à l'occasion de ce dernier qui partira de Florence le 29 juin. La date limite des retours des dessins est le 29 juin, tandis que la remise des prix se tiendra le lundi 24 juin à partir de 17h à l'hôtel de ville. Le 3 juillet, vous aurez l'occasion de profiter d'une agréable soirée ayant pour thème Florence et l'Italie. Des informations complémentaires parviendront prochainement. Afin de conclure en beauté l'événement aux chaleureuses couleurs de l'Italie, l'exposition Marcello Mastroianni et ses maîtres sera disponible à la médiathèque Falala du 20 juillet au 31 août.
Merci Médina et vous retrouvez Reims Rayonnement International dans l'émission Fréquence Jumelage ce dimanche à 17h45 avec notamment sa présidente Colette Padès. C'est une information qui nous parvient de la part de Thierry Delis à la mise en onde ce soir. Tout de suite, un zoom sur l'agenda des sorties du week-end avec Inès Elgaloussi.
À partir de demain jusqu'à lundi, la fête du printemps aura lieu place d'Erlon à Reims. Cet événement est organisé par les vitrines de Reims. Il sera ouvert à partir de 11h et jusqu'à 19h le samedi et dimanche. Quant au lundi, il se terminera à 18h. Ensuite, ce dimanche, l'ABEP organise un super événement sportif et amical à Courmissy. Pour rappel, l'ABEP est une association familiale et conviviale regroupant plus de 260 adhérents. Comme chaque année, la section VTT organise sa célèbre Sainte Aubeu. Elle est principalement composée d'enfants. Pour la 24e édition, 4 parcours VTT et 1 parcours pédestre sont prévus. Au programme, une sortie dans les bois de Courmissy pendant que le loup n'y est pas, avec au retour un verre de l'amitié et la possibilité de se restaurer sur place. L'association l'ABEP reversera une partie des inscriptions et de sa tombola à l'association Roseau ainsi qu'au Téléthon. Pour ce lundi de Pentecôte, ce sont près de 1500 pèlerins qui sont attendus pour effectuer le pèlerinage diocésain au lac de Béron, près du Chêne, dans les Ardennes. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Étienne Veuteux invitent tous les fidèles du diocèse de Reims et des Ardennes à découvrir la Terre Sainte chez nous. Ensuite, plus de 110 adultes seront confirmés le jour de la Pentecôte. Celle-ci sera célébrée particulièrement ce dimanche.
Ça en fait des rendez-vous. Merci Inès. Hier, en fin d'après-midi, le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, accompagné de son adjoint au sport, Christian Gontier, a dévoilé à la presse le parcours de 3 km qu'empruntera la Flamme Olympique pour traverser la ville de Vitry-le-François en moins d'une heure le 30 juin prochain. Christian Gontier.
Effectivement, il va se passer quelque chose d'historique, puisque statistiquement, c'est tous les 100 ans qu'on peut voir passer la flamme dans sa commune. Donc nous aurons la chance le 30 juin prochain de l'avoir traversé Vitry-le-François, première ville de la Marne traversée par la flamme olympique.
Première ville, elle reste longtemps ?
Elle va rester à peu près entre 30 et 40 minutes sur le parcours. C'est un parcours de 3 km qui va démarrer dès 9h du matin du centre aquatique et qui va arriver place d'Armes.
Est-ce que les habitants ou toutes les personnes qui le souhaitent pourront être sur les bords des rues de Vitry pour encourager le relayeur ?
Bien entendu, je les invite à venir très nombreux. Le parcours sera bien sûr sécurisé, mais le public pourra être aux abords du parcours et pourra voir la flamme passer. Enfin, nous souhaitons qu'il y ait des relayeurs Vitria parmi les 15 qui passeront de centre aquatique à place d'Armes.
Vous souhaitez parce que vous ne les connaissez pas encore ?
Non, pas encore, puisque ça, c'est un tirage au sort. C'est des candidatures qui se font au niveau de l'organisation, qui est Paris 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques, qui, eux, gèrent les candidats et les validations des candidats qui participeront aux relayeurs.
Christian Gontier, merci. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au sport à la ville de Vitry-le-François.
Merci, Gérald, et à très bientôt.
Christian Gontier au micro RCF Cœur de Champagne de Gérald Gaillet a noté que dès le samedi 29 juin, les riverains des 3 km de passage de la flamme olympique devront déplacer leur véhicule dans une autre rue sous peine de fourrière. Des animations auront lieu sur la place d'armes de Vitry-le-François le dimanche 30 juin jusqu'à 13h30. On aura l'occasion d'y revenir prochainement. L'agenda des sports nous emmène d'abord sur les parquets de basket en Pro B. Le Champagne Basket s'est incliné 70-59 à Boulazac hier soir dans la manche 1 des quarts de finale de play-off. Deuxième manche à Renétis à Reims dimanche à 17h. Autre enjeu majeur ce week-end en football, cette fois les féminines du stade de Reims se déplacent à 18h sur la pelouse du Paris FC pour disputer la petite finale de D1 Arkema, match pour la 3e place donc. En cas de victoire, elle finirait la saison 3e et disputerait la Ligue des Champions féminines la saison prochaine. Les garçons du stade de Reims termineront eux leur saison de Ligue 1 dimanche soir à 21h avec la réception de Rennes. À l'issue de la partie, un vibrant hommage sera rendu à notre emblématique capitaine Younis Abdelhamid. Il y a de la Ligue 2 aussi ce soir au programme avec Troyes qui reçoit Annecy à 20h45. Avant de refermer ce journal, place à la météo du week-end. Un long week-end de 3 jours, une météo plus longue donc, présentée à deux voix avec Médina et Inès.
Ce soir dans les Ardennes, il fera entre 11 et 12 degrés avec un ciel couvert et quelques averses à prévoir vers le nord. Dans la Marne, les températures seront similaires allant de 10 degrés à Vitry-le-François jusqu'à 13 degrés à Reims. En Haute-Marne, il fera 11 degrés et nous nous endormirons sous un ciel étoilé et dégagé. Il en va de même dans l'Aube où il fera entre 9 degrés et 11 degrés. Demain matin dans les Ardennes, la pluie sera au rendez-vous avec des températures allant de 12 degrés à Charleville-Mézières jusqu'à 14 degrés à Rethel. Dans la Marne, les températures tourneront autour de 14 degrés pour l'ensemble du département, sous un ciel voilé mais ensoleillé. À Saint-Dizier, en Haute-Marne, il fera un léger 15 degrés et le ciel battra son plein. Ce dernier sera également de passage dans l'Aube où il fera entre 14 et 15 degrés, notamment à Troyes et Arcis-sur-Aube. À présent, dans l'après-midi, le ciel sera plutôt couvert pour l'ensemble des départements. Cependant, ce dernier nous offrira de douces températures, notamment dans les Ardennes, allant de 17 degrés à Charleville-Mézières jusqu'à 19 degrés à Rethel et Vouziers. Dans la Marne et la Haute-Marne, ce sera un joli 20 degrés qui vous accompagnera dans votre après-midi. Il en va de même pour l'Aube, qui offrira d'agréables températures entre 18 degrés et 20 degrés à Troyes et Arcis-sur-Aube. Par ailleurs, demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Éric.
Merci Médina, la suite avec Inès.
Dimanche matin, dans les Ardennes, de la pluie est prévue à Charleville-Mézières, où il devrait faire 12 degrés. Dans la Marne, le soleil pointera le bout de son nez à Reims, Épernay et Châlons-en-Champagne, où il fera 13 degrés. Pour l'Aube, il fera 12 degrés à Troyes et Bar-sur-Aube, où le soleil sera au rendez-vous. Quant à la Haute-Marne, le soleil sera d'actualité à Saint-Dizier, où il fera 12 degrés. Dimanche après-midi, dans les Ardennes, les températures sont estimées à 18 degrés à Charleville-Mézières, où des éclaircies seront présentes. Toutefois, de la pluie est annoncée. Dans la Marne, il fera 19 degrés à Reims, où le soleil sera accompagné par de la pluie. Dans l'aube, la pluie et le soleil seront également présents à Troyes et Bar-sur-Seine, où il fera 20 degrés. Enfin, dans la Haute-Marne, le soleil sera au rendez-vous, où il fera 19 degrés. Dimanche, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Yves. Et ce week-end sera célébré la Pentecôte. Alors, bonne Pentecôte à tous ceux qui la célébreront.
Merci Inès, et on retrouve Médina pour avoir les grandes tendances de lundi.
Ce lundi 20 mai, le ciel sera ensoleillé toute la journée sur l'ensemble des départements et c'est sous ces agréables températures que nous célébrerons la Pentecôte ce week-end. Lundi, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Bernardins et en attendant, je vous souhaite une agréable soirée.
Merci les filles, très bon week-end, bien mérité. On pense aussi à Ilona qui est avec nous, qui reste en studio ce soir. Ilona, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce week-end de 3 jours? De se reposer un peu?
Oh oui, un petit repos, ça ne va pas faire de mal après cette première semaine de stage bien remplie.
Avec du travail acharné, comme nos auditeurs sans doute. Le 18-19 en Champagne continue tout de suite sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
On retrouve tout de suite le père Pascal Tindano, prêtre de l'espace missionnaire Brie, qui nous présente la fête que l'on attend, la prochaine, celle de la Pentecôte, ce week-end. C'est avec Christian Lancio.
Bonjour Pascal.
Bonjour Christian. La Pentecôte veut dire 50e, le 50e jour après Pâques, qui célèbre donc la descente du Saint-Esprit sur le groupe des 12 apôtres et beaucoup d'autres disciples, dont la Vierge Marie. Cette fête qui clôt le temps pascal puise son origine, en fait, dans la fête juive qui s'appelle Shavuot, qui est prescrite dans les livres de l'Exode et des Nombres. Comme on le sait, elle est une fête célébrée à la fois par les Juifs et les chrétiens. À l'origine, cette fête commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. À cette occasion, on offrait à Dieu les premiers fruits de la moisson. Peu à peu, cette célébration a été associée au souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la religion juive. Les chrétiens fêtent à la Pentecôte donc le jour où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint, comme le mentionnent ici les Actes des Apôtres. Donc l'Esprit Saint se répand donc sur les disciples et les ouvre à l'intelligence de la foi. Les apôtres et tous ceux qui étaient avec eux, dont Marie, comme on l'a dit, la mère de Jésus, comprennent désormais que Jésus est vraiment ressuscité. Il découvre que l'Esprit Saint est la source d'une vie nouvelle et que cet Esprit n'est pas seulement une lumière, une force, une conviction, mais une personne, donc la troisième personne de la Trinité. Ils font ce jour-là, à Jérusalem, beaucoup de conversions, car ils peuvent enfin s'adresser à tous. C'est le début, on peut dire, de la propagation de la religion chrétienne. La signification de la Pentecôte pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, comme les apôtres et tous les autres, nous continuons de recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, en vue du même témoignage chrétien.
Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous, et au revoir Pascal et merci.
Au revoir, merci.
Merci Père Pascal Tindano et Christian Lancio depuis Cézanne. Les horaires des messes de la Pentecôte sont à retrouver sur le site messe.info.
Le 18-19 sur RCF.
Et tout de suite, on va prendre des nouvelles du diocèse de Reims et des Ardennes avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse, qui est au micro de Jean-Pierre Benoît.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et bonjour à toutes.
On va beaucoup évoquer dans cette émission le pèlerinage à Béron, au lac de Béron dans les Ardennes. On y revient dans une poignée de minutes, c'est le grand rendez-vous de la Pentecôte.
Eh bien, c'est la Pentecôte.
C'est la Pentecôte avec les confirmations. Simplement une question d'actualité puisqu'on parle beaucoup du festival de Cannes. Et au cœur de ce festival, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche a présenté avant-hier un film sur les victimes de violences sexuelles. Et un Rémois qui avait été agressé il y a très très longtemps, il y a plus de 40 ans, par un prêtre qui est décédé depuis, a été, dans cet article de l'Union de l'Ardennais, mise en question. Et votre témoignage également, qu'est-ce que vous en pensez, Monseigneur?
Non, en fait, d'abord, c'était il y a 40 ans, ça paraît peut-être il y a longtemps, mais en fait, la personne concernée, elle a aujourd'hui 51 ans, quelque chose comme ça, devait avoir 11-12 ans à l'époque, donc c'est un homme encore jeune. Et qui souffre beaucoup, que j'ai rencontré à sa demande, effectivement, sur un prêtre dont malheureusement les méfaits, enfin en tout cas moi, m'étaient déjà connus. Je suis arrivé à Reims il y a 5 ans, j'ai reçu à ce moment-là un certain nombre de personnes victimes, en l'occurrence 3 personnes victimes. Ce monsieur a demandé d'être mis en relation avec elles, ce que j'ai fait. après avoir demandé l'autorisation à ces personnes, car je ne suis pas propriétaire des personnes qui viennent me faire des confidences donc, et raconter leur vie, donc je leur ai demandé s'ils étaient d'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, et c'est, je crois, le point principal, c'est que cette personne, avec au moins une autre, souhaite faire un groupe de parole. Et je crois que ça peut être utile pour des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles de ne pas rester seules, parce que parler n'est pas suffisant. La justice fait ce qu'elle peut. En l'occurrence, il y a eu une enquête, parce que j'avais fait un signalement au procureur à l'époque, et qui a fait une enquête dont je ne sais pas très bien ce qu'il a conclu, qui a conclu qu'il y avait eu des faits, et qui a écrit aux personnes connues à l'époque qu'elles avaient bien été victimes. Voilà, et puis ces personnes, elles peuvent toujours s'adresser à l'instance nationale de reconnaissance et réparation que la conférence des évêques a mise en place et qui est à leur disposition pour essayer de les accompagner dans un chemin de reconstruction autant que c'est possible. Voilà, mais je crois que parler entre personnes qui ont été victimes, ça peut être aussi une manière de progresser. Et donc, l'article donne les coordonnées nécessaires pour retrouver et entrer en contact avec ces personnes.
Évidemment, on va changer de sujet très très vite, parce qu'il y a plusieurs sujets, Monseigneur. La Nouvelle-Calédonie, on vient d'entendre, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'est une tragédie.
Ben, c'est très triste, parce que c'est un processus qui est en place depuis plus de 10 ans. Il était prévu 3 référendums. On a bien vu que ces 3 référendums... ne satisfaisait pas en fait totalement ni des indépendantistes. Ils rassuraient ceux qui ne sont pas pour l'indépendance, mais en fait ils n'étaient pas complètement satisfaisants pour autant. Je pense que c'est une situation très 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 compliquée, avec sans doute des groupes violents qui agitent. Il y a eu un bel appel des églises chrétiennes à profiter de la Pentecôte, en rappelant beaucoup de gens sont chrétiens, soit catholiques soit protestants. Et donc appelant à faire un effort de paix et de négociations sérieuses.
La Pentecôte, Monseigneur, ce sont des confirmations qui vont commencer pour vous dès demain, samedi, et puis qui vont se poursuivre dimanche.
Voilà, donc nous confirmons à Reims, je dis nous parce que c'est Monseigneur Vette aussi, puis quelques prêtres qui nous aideront, notamment les écoles catholiques, c'est un peu la thématique de demain. Donc le matin à Saint-Rémy, l'après-midi à Saint-Jacques. Et c'est une belle joie, hein. J'ai encore rencontré hier un groupe de jeunes, et voilà, ce sont des jeunes intéressants et très, 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 qui ont beaucoup réfléchi et pour qui c'est une belle étape dans leur croissance humaine et spirituelle. Et puis dimanche, les adultes, donc à la cathédrale, 112, je crois, adultes, donc ce sera une belle célébration, et comme les baptêmes de Pâques, c'est une belle promesse pour notre Église.
Et le lundi de Pentecôte, le fameux pèlerinage annuel du lundi de Pentecôte, c'est à Béron, dans le département des Ardennes, c'est le lac de Béron. Tout s'est préparé depuis très longtemps déjà. Monseigneur, c'est un grand rendez-vous.
Oui, c'est un grand rendez-vous. En fait, c'est une petite idée que je porte depuis un certain temps. Tout le monde ne peut pas aller en Terre Sainte, mais nous pouvons évoquer près de chez nous des aspects de la Terre Sainte. C'est une manière aussi de découvrir le diocèse et son histoire sainte. Donc nous sommes allés au désert en allant à Saint-Valfrône, nous sommes allés à la montagne en allant à Igny. On fait ce qu'on peut avec le lieu où nous sommes. Et là, nous serons près d'un lac, le lac de Béron. C'est la première fois que nous serons accueillis dans un lieu qui n'est pas un lieu d'église. Donc c'est un beau défi aussi. Et je remercie tous ceux et celles qui nous accueillent. Et les équipes autour du lac de Béron, beaucoup de chrétiens se sont mobilisés pour accueillir au mieux. Donc il y a 17 cars qui viendront de tous les espaces missionnaires, mais beaucoup viendront en voiture, il y a de la place pour tout le monde, et surtout il ne faut pas hésiter à venir. Apparemment il ne pleuvra pas, et donc nous pourrons, je crois, vivre un beau temps, le matin un peu de marche, et puis l'après-midi des temps d'échange avant la messe finale qui est prévue à 15h30, donc tout ça est fait pour terminer vers 17h, et je pense qu'on peut vivre une très belle journée d'amitié, de foi partagée, de découverte du diocèse. Ça sera pour moi aussi l'occasion de présenter les membres du conseil diocésain de pastoral avec lesquels je vais travailler d'ailleurs ce soir.
Le démarrage est à 8h45, une rencontre, un accueil à 9h, le début de la marche, et puis aussi pour celles et ceux qui ne marchent pas, il y a la possibilité de rester sur place.
Exactement.
En vivant quand même le pèlerinage. Et puis à 15h30, une messe d'envoi, mais une messe importante qui va rassembler tout le monde. Voilà. C'est la famille diocésaine qui se rassemble.
Exactement, et ça permet à des gens de tous les coins du diocèse de se découvrir. Et puis tous ensemble, essayer de se créer une culture commune.
Alors entre-temps, bien sûr, on parlera de, mais il y aura de la musique, ils ont des expositions sur le patrimoine, et puis aussi des ateliers dans l'après-midi.
Tout à fait. Et alors, je voudrais insister sur le patrimoine parce que, pour le lac de Béron, donc, c'est parce que c'est un lac et qu'il nous en fallait un. Dans la Bible, dans l'Évangile, le lac joue un grand rôle. Mais ceci parce que sa proximité, par exemple, de l'abbaye du Mont-Dieu, enfin, de ce qu'il en reste, hein, une grande chartreuse, la deuxième chartreuse, la première créée en dehors de la grande chartreuse dans la montagne, au Moyen-Âge. C'est un beau souvenir et j'aimerais que tous les diocésains sachent que ce lieu a existé, que c'était ici, chez nous, dans la forêt des Ardennes. Et il y a beaucoup de lieux comme ça qui historiquement ont été des lieux spirituellement forts et je trouve important que nous les découvrions.
Il y a le temps de marche comme à chaque fois, mais il y aura un temps de rassemblement un peu plus global où les gens peuvent se retrouver tous ensemble au-delà de chaque espace missionnaire.
C'est-à-dire, exactement.
C'est important d'avoir des temps de retrouvailles globales.
Exactement, voilà, donc on essaie de faire en sorte que ces pèlerinages servent à la cohésion de chaque espace missionnaire, mais aussi à découvrir plus largement notre vie diocésaine.
Merci Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RCF.
À bientôt, merci à vous.
Au revoir.
Merci Monseigneur, merci Jean-Pierre.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine ce vendredi soir par une rencontre insolite. Nomade, Sébastien plante sa tente dans un camping où, chez les abonnés de sa chaîne YouTube, deux roues, une tente. Sébastien est présent sur un terrain situé à la lisière de la Marne et de la Haute-Marne et fait visiter à ses abonnés les beaux monuments du secteur. Ce mercredi 8 mai, Sébastien a découvert à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François en compagnie du président de l'association des amis de la collégiale, Gérald Gaillet, un reportage qu'il proposera dans les semaines qui viennent sur sa chaîne YouTube « Deux roues, une tente ».
Bonjour, aujourd'hui je suis avec Seb le motard. Alors Seb le motard, il est un peu itinérant et il va nous expliquer pourquoi aujourd'hui, eh bien, il est dans la collégiale de Vitry-le-François. Bonjour Sébastien.
Bonjour Gérald et bonjour à tous tes auditeurs. Alors pourquoi je suis dans la collégiale ? Parce que tu m'as proposé de rentrer et tu me l'as proposé parce que je te l'ai demandé, déjà. Et plus précisément, je suis ici parce que je suis nomade, je voyage en permanence et j'ai l'habitude de faire découvrir les régions que je visite. Et bon, cet endroit, quand je suis arrivé sur Vitry, on ne peut pas ne pas voir la collégiale, c'est pas possible. Donc il fallait vraiment que j'en parle pour ma chaîne YouTube où je partage mon aventure nomade à moto depuis presque 4 ans et où donc je fais découvrir les endroits que je traverse.
Alors donc justement, les endroits que vous traversez, c'est la France ou c'est même plus loin ?
Alors, c'est la France et plus, dans la mesure où je vis en tente. Je mets quiconque au défi d'essayer de vivre en tente en France sans chauffage l'hiver, même dans le sud de la France. Alors je sais, il y en a qui le font contraint et forcé, mais moi je préfère quand même pour le moment le sud de l'Espagne. Et dans le futur, je prévois d'élargir quand j'en aurai les moyens. Pour le moment, je reste dans des choses que je maîtrise. Mais grosso modo, le sud de l'Europe, on va dire, l'hiver, plus au nord, l'été.
Alors pourquoi être nomade ?
Alors là, grosse question, très très grosse question, avec une grosse réponse. Ça s'est passé en plusieurs temps. D'abord, j'ai vécu, pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, ils ne s'en rendraient pas compte, j'étais un véritable ours. J'ai vécu plus de 20 ans chez moi, au fond d'un appartement, quasiment sans voir personne. Je veux dire, quand je dis sans voir personne, ça veut dire deux fois par semaine, je voyais la caissière du supermarché, c'est tout. J'avais besoin d'un gros changement. J'ai découvert un motard américain qui faisait déjà beaucoup de voyages à moto et qui un jour a décidé de laisser l'appartement à son colocataire, mettre ses affaires chez ses parents. Il est parti de façon définitive. Il s'appelle Tim, il a une chaîne qui s'appelle, je suppose que je peux la citer, 40 Times Around, qui signifie 40 fois le tour de la Terre. Et quand je l'ai vu faire ça, moi à l'époque je roulais en 125, j'ai dit si lui fait ça, moi je peux aussi. En plus de ça, j'étais chez ce qu'on appelle un marchand de sommeil au niveau de mon dernier appartement. J'avais que des ennuis. Je ne pouvais pas les louer autre chose parce que quand on n'a pas d'argent, les agences immobilières ne vous aiment pas. Donc la solution, c'était, pour partir de cet appartement sans louer autre chose, c'était ce projet-là. Pendant plus d'un an, j'ai étudié la question sur YouTube. J'ai passé mon permis à deux. Et en novembre 2020, je suis parti, le 5 novembre exactement. J'aurais dû partir plus tôt, mais les événements de cette année-là m'ont retardé.
Pourquoi faire partager les communes que vous traversez ?
Alors, là aussi, il y a plusieurs raisons. Il y en a deux, en fait. Au départ, quand j'ai conçu ce projet, bien avant de vraiment partir, moi, je viens du monde du marketing en ligne. Et j'avais déjà réalisé des vidéos pour ce type d'activité-là. Donc, il m'est venu naturellement l'idée de partager mon aventure de manière à attirer du monde. Ça, c'est la raison originelle. Et une autre raison qui est venue se greffer par-dessus et qui est la limite à présent, aujourd'hui, presque plus importante que la première, qui est toujours là, c'est tout simplement qu'au fil du temps, j'ai des gens qui ont commencé à me dire « Mais écoute, moi je ne peux pas voyager, ou j'ai voyagé, je ne peux plus, pour raison X ou Y, certains c'est financier, d'autres c'est des raisons de santé, etc. Je ne peux pas ou je ne peux plus voyager, j'ai l'impression de voyager à travers toi. » Et ça, pour ces gens-là, vraiment, j'y tiens. Et c'est entre autres pour eux que je suis présent dans la collégiale aujourd'hui, pour leur faire découvrir cet endroit.
Combien avez-vous d'abonnés ?
Quasiment 2000. D'ici à ce que je rentre, ils y seront peut-être. Ce matin, j'étais à 1995. Ce qui n'est pas énorme, mais d'après YouTube, c'est déjà pas mal, puisque d'après les statistiques officielles de YouTube, seuls 8% des chaînes atteignent les 1000 abonnés. Donc j'ai déjà, on va dire, passé un cap. Maintenant, il faut que ça continue à grandir.
Quel est votre prochain voyage, parce qu'actuellement vous êtes entre la Marne et la Haute-Marne?
Oui, alors je suis ici parce que, en fait, pour raison de problèmes financiers, un de mes abonnés m'a proposé un terrain gratuit. J'ai été obligé de l'accepter. En plus, je ne connaissais pas la région, donc dans un sens ça tombe bien. La prochaine étape, sauf coup du sort, on va dire, ça sera une rencontre abonnée en Normandie, dans un endroit que je connais très bien parce que j'y ai passé des mois et des mois et des mois à une époque où j'avais des problèmes mécaniques. C'est une ferme qui est à la limite de l'Orne et du Calvados, et ça serait la troisième semaine d'août, et j'espère qu'un très grand nombre de mes abonnés seront présents, et je vais pendant une semaine leur faire découvrir la région.
Donc en fait, vous voyagez au fil de vos accueils?
Alors la plupart du temps, en fait, je vais en camping, et là dernièrement, c'est vrai que j'ai vraiment eu besoin de l'aide de mes abonnés, parce que là tout de suite, je ne suis pas en capacité de payer un camping.
Est-ce que le fait de partager vos voyages vous apporte quelque chose?
Oui, alors déjà énormément de satisfaction, parce que la première chose que je reçois de mes abonnés, ce sont tous ces commentaires qui, à 99%, sont extrêmement positif, et ça me fait vraiment, vraiment beaucoup plaisir. Et puis depuis un peu plus d'un an maintenant, alors j'avais déjà eu quelques coups de main d'abonnés par le passé, mais depuis un an ça s'est vraiment multiplié, et notamment quand j'ai besoin de faire une étape courte où je veux pas prendre le temps de monter mon camp, ce qui est long, fatigant, etc. Je sais qu'à présent je peux compter sur mes abonnés. Je dis voilà, j'ai besoin de passer dans telle région, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'accueillir pour une nuit? Je compte plus le nombre de fois où on m'a accueilli très généreusement. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi.
Et sans planter la tente?
Et sans planter la tente, oui, parce qu'à chaque fois, il y a une chambre qui m'attend. Alors, moi, je considère que ça ne doit pas être systématique, mais à chaque fois, je demande où est-ce que je peux aller acheter un sandwich. On me dit, mais non, tu vas dîner avec nous. C'est quelque chose vraiment que j'apprécie beaucoup, qui me rend énormément service et que je trouve extraordinaire.
Est-ce que ça vient plus facilement depuis le Covid?
Alors là, j'aurais du mal à répondre, puisque j'ai démarré mon aventure en novembre 2020, c'est-à-dire que toute l'histoire Covid, on était en plein dedans. Donc je ne saurais pas dire si ça aurait été plus facile avant. Ce que je peux dire, c'est que la vaste majorité de mes abonnés, donc tous les gens qui m'aident, sont, tout comme moi, des motards. Et il y a une très grande solidarité entre motards. Et ça, c'est pas une légende, c'est un fait. Je peux dire que je l'ai constaté par moi-même. Et je pense que le fait qu'on soit entre nous motards, ça joue quand même, ça joue.
Sébastien, si on veut aller regarder ce que vous faites, que faisons-nous?
Alors c'est très facile, il suffit de se rendre sur YouTube et de chercher deux roues, une tente. C'est un de mes abonnés qui m'a suggéré le nom, d'ailleurs je l'ai changé il y a 2 ans. Deux roues c'est pour la moto et une tente c'est pour la tente. Deux roues, une tente sur YouTube.
Eh bien Sébastien, merci, et puis bonne route pour vos futures explorations de villages, de communes, de la Marne, de la France et de l'Espagne.
De l'Espagne, et j'ai pas encore décidé, mais il se pourrait que je me mette à apprendre l'italien. Pour information, je suis d'origine italienne 50% par mon père. Mais merci à vous et à tous vos auditeurs.
Un entretien réalisé par Gérald Gaillet, justement de la rédaction de RCF Cœur de Champagne, Pour découvrir le reportage de Seb Le Motard sur la collégiale Notre-Dame de l'Assomption de Vitry-le-François, vous devez vous rendre sur sa chaîne YouTube « Deux roues, une tente », bien évidemment. Ainsi se referme le magazine régional. Ce soir, on vous souhaite un très bon week-end prolongé. Nous, on se retrouve mardi 18h10 pour le magazine régional. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Tout de suite, l'information nationale.